Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes à l'Opéra Comédie pour un festival inhabituel, on va dire, même s'il a lieu depuis quelques années maintenant. C'est la 9e édition, c'est ça ?
9e édition, tout à fait, oui.
Voilà. Donc, le festival Klang, avec donc Julien Guillaumat, qui est un des responsables, un des animateurs de ce festival, qui est proposé par la... Vous allez nous dire ce que c'est, par la Maison des Arts Sonores. Alors, Julien Guillaumat, cette Maison des Arts... Alors déjà, plutôt, on va commencer par Klang. Qu'est-ce que c'est, Klang ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas une onomatopée de bande dessinée,
alors,
c'est autre chose.
C'est une onomatopée, mais c'est également... ça veut dire son en allemand, timbre, son, et... Et en fait, c'est aussi une des grandes pièces de mon professeur avec qui j'ai fait mon doctorat en musique électroacoustique, John T. Harrison. Et donc, c'est pour lui rendre hommage un peu ce nom aussi, puisque c'est vrai que il a tellement donné. C'est un professeur très, très généreux. Et donc, voilà, c'était un peu pour lui rendre hommage.
Alors, donc Klang, voilà. Alors, c'est la question du timbre, c'est la question du matériau sonore, on pourrait dire. Et il s'agit de... Alors, comment on va dire ? Parce qu'il y a tellement de termes qui circulent. Musique concrète, musique électroacoustique, musique acousmatique. Et il y en a sans doute d'autres que j'ignore.
Alors, tout ça, c'est vrai. Nous, le festival, on a décidé de l'axer autour des musiques électroacoustiques parce qu'en fait, c'est un terme un peu... Bon, on va dire fourre-tout, même si c'est pas un très joli mot, parce qu'en fait, c'est tout simplement les musiques qui utilisent les nouvelles technologies. Donc la musique concrète qui est vraie, qui est à la, comment on va dire, est à la naissance de ces musiques-là dans les années 40. Et puis ça englobe également la musique électronique des studios à Cologne de Karlheinz Stockhausen dans les années 50. Mmh. Et on a également les musiques mixtes de Pierre Boulez à l'IRCAM par exemple. Et puis les courants de musique expérimentale avec John Cage. On a également les musiques de Xenakis, musique mathématique, on dit souvent, qui sont aussi au cœur de cette musique-là, la musique électroacoustique.
Alors, comment on pourrait définir ? On pourrait définir ces musiques-là par l'absence d'instruments ou par des instruments qui jouent sur le timbre ou par des concerts où il n'y a pas forcément de musiciens ou...
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la musique acousmatique qui vient de cette tradition de musique concrète, la tradition française qui est née dans les années 40 avec Pierre Schaeffer. Et c'est une musique pour haut-parleurs, donc pour orchestre de haut-parleurs, enfin on peut dire. Donc c'est vrai que c'est une musique qui est fixée en studio et qui est après interprétée ici en direct sur la console de spatialisation pour la déployer sur l'orchestre de haut-parleurs. Et donc nous avons également les musiques mixtes. Donc par exemple, ce soir, mercredi, nous aurons un exemple avec les musiques de Christophe de Koudenov, qui est une musique mixte pour tuba et bande. Bande où aujourd'hui, évidemment, c'est l'ordinateur qui a remplacé les bandes.
C'est pour fichiers maintenant.
Oui, pour fichiers, pour clés USB, pour... Et donc là, on aura le professeur du conservatoire donc, qui viendra nous interpréter cette pièce pour tuba et bande. Et puis nous avons également les musiques expérimentales avec Europa Meta Orchestra, donc ça sera jeudi, avec des musiques de Juan Aramburu, Marion Picot, Jean-Baptiste Morel et Alvin Lucier. Donc de plus tourner vers l'expérimental et avec des instruments sur scène également, violon, violoncelle, contrebasse, flûte, guitare, voilà.
D'accord, donc tout est possible en
tout
fait.
Tout est possible, c'est ça qui en fait, ce n'est pas un festival d'une esthétique très particulière, c'est le festival du tout est possible en fait.
Le festival du tout est possible, c'est attirant on va dire, on a envie de voir de quoi il s'agit. Alors vous êtes en même temps un des responsables de la Maison des Arts Sonores, qui fêtera son 10e anniversaire l'année prochaine, d'après ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Maison des Arts Sonores et quelle est sa raison d'être ?
Alors, quand je l'ai créé en 2014, j'ai voulu créer une association de musique, de création musicale, musique contemporaine, au sens large, mais axée quand même sur les nouvelles technologies, donc la musique électroacoustique. Et notre cœur, c'est vrai que notre cœur de métier, de par ma formation et de par mon entourage, est devenu vite la musique acousmatique. Et donc, nous avons vocation, nous organisons une petite saison à l'année avec deux événements forts, la semaine du son en janvier et le festival en juin, le festival Klang.
Et il y aura un 10e anniversaire qui se prépare dignement pour l'année prochaine.
Voilà, le 10e anniversaire, donc la 10e année d'existence de Maison des Arts Sonores se fêtera durant la semaine du son en janvier, fin janvier, la dernière semaine de janvier en 2024. Et puis en juin 2024, nous fêterons la 10e édition du Festival Klang. Donc ça sera vraiment une année de fête, une année d'anniversaire. Et voilà, donc peut-être un grand tournant aussi pour nous. On verra comment les choses se passent.
Alors, toutes ces musiques, bon, elles ont une histoire quand même ancienne, hein, parce que vous évoquiez les années 40, mais il me semble qu'on pourrait remonter même plus loin, jusqu'aux années 20, avec les futuristes italiens. Je pensais à Luigi Russolo, qui faisait ces musiques de bruit.
Les musiques bruitistes, oui.
Et qui avait déjà un orchestre de haut-parleurs.
Alors, il y avait des orchestres de haut-parleurs, mais c'est pas tout à fait des orchestres de haut-parleurs, c'est des machines de bruit. Donc en fait, elles avaient des cônes en effet, mais c'était des cônes de projection et le mécanisme de ces sons était à l'intérieur de ces boîtes. Donc c'était les boîtes qui fabriquaient directement le son en direct avec des mécanismes de poulie, d'actionnement avec des soufflets et chaque machine faisait un son bruitiste différent. Et ce sont les premières idées, on va dire, inclure des sonorités nouvelles, des sonorités différentes par rapport au 19e siècle où on est resté sur l'orchestre classique.
Avec sa disposition classique, ses instruments classiques et son langage très codifié aussi. Là, est-ce qu'il y a un langage qui est beaucoup plus libre aussi,
il me semble. Beaucoup plus libre, mais en même temps, comme vous l'avez dit, il y a une histoire et il y a une théorie. Hein. On connaît tous le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer. Et il y a également énormément de compositeurs qui ont théorisé cette musique. On pense évidemment à François Bell, on pense à Michel Sion, et puis bien sûr à Annette Van de Gorn, John T. Harrison, Dennis Mollet. Tous ces gens-là ont contribué à créer un cadre, que ce soit au niveau de la composition, de l'écriture, mais également de l'interprétation de ces musiques. Donc il y a maintenant, je vais dire, une histoire et ça commence aujourd'hui à faire foi, tous ces écrits, et guide la nouvelle génération, on va dire. Mais c'est une musique qui reste une musique profondément ancrée dans la contemporanité, donc il est vrai qu'elle est un peu mouvante toujours, elle cherche encore un peu parfois à se définir encore.
Alors est-ce qu'il y a lieu de différencier, comme on le fait parfois avec la musique classique, on dit à la musique artistique ou savante, et puis à la musique populaire, est-ce qu'il y a lieu de différencier les musiques qu'on va entendre à Klang, de l'électro par exemple, toute cette musique électro, ou est-ce que les passerelles sont complètement ouvertes ?
Alors, les passerelles ne sont pas complètement ouvertes, certaines personnes les ferment complètement, d'autres essaient de justement créer ces passerelles, mais c'est vrai que ces musiques sont nées quand même dans les studios de l'ORTF à l'époque, la maison de la radio aujourd'hui, et de suite ça a été très institutionnalisé avec, je vous dis, les écrits, les concerts formels, ce qui fait qu'on a très vite enseigné ces musiques-là dans les conservatoires et que les musicologues l'ont classé dans cette catégorie qu'on appelle, je n'aime pas trop ce nom, mais musique savante, je préfère le nom peut-être de musique académique. Et si par exemple on devait acheter, ça ne se fait plus trop aujourd'hui, mais si on devait acheter un CD de musique acousmatique à la FNAC, on l'achèterait clairement dans le rayon dit classique. Mais dans mon festival, on a déjà croisé les passerelles, et dans beaucoup de festivals à travers le monde, même au GRM, ces passerelles sont croisées. Je pense que la rencontre des publics, c'est quelque chose qui est encore plus important aujourd'hui. Il faut penser aux générations qui ne connaissent pas ces musiques, qui ne sont pas nées à l'époque des grandes subventions de l'État. Et donc croiser les publics, croiser les artistes, c'est aussi enrichir le monde musical les uns des autres. Et c'est important pour nous, les compositeurs et les artistes, de ne pas rester dans des tours d'ivoire et d'aller se frotter à tout ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on s'enrichit les uns les autres, finalement.
Mmh. Oui, alors, si vous évoquiez l'après-guerre, hein, ces musiques, et puis les subventions, hein, ces musiques, il me semble, qui ont été beaucoup soutenues, il faut dire ce qui est, dans les années 60-70, surtout. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas de figure ou comment on peut expliquer que ça... Alors, je reprends. Dans les années 60-70, en plus, ça se diffusait beaucoup, notamment à travers le cinéma. Oui. Je pense au travail d'un Walter Carlos avec Orange Mécanique ou des choses comme ça. C'est redevenu, semble-t-il, une musique très confidentielle.
Alors, depuis la fin des années 80, depuis les mi-90, c'est vrai que ces musiques-là sont de moins en moins subventionnées et aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins. Il ne faut pas oublier que ce sont quand même à la base, si on travaille en studio et qu'on a un travail énorme en amont du concert, c'est parce que ce sont des musiques d'expérimentation, de création, de recherche. Bien sûr qu'on les diffuse au travers de concerts, mais on n'a pas la vocation à devenir commercial. Donc c'est vrai que très peu de productions sont montées sur CD ou sur grande diffusion à échelle vraiment commerciale, grande échelle. Parce que c'est la recherche et l'expérimentation. Donc évidemment, dans ces recherches et dans ce côté expérimental, on va toucher un plus petit public. Mais si ces musiques ne sont plus soutenues, où va la musique? C'est-à-dire que qui va avoir le temps de faire cette recherche, de faire cette expérimentation? Doit-on tourner en rond sur quelque chose qui n'ira nulle part? Je pense que ces musiques sont importantes. Si elles n'existent plus, c'est la fin de la création, quelque part. C'est la fin de la future création, en tout cas.